chapitre 11 « Comment et pour quelle cause Chico était mort, la sérénade, la bourse de Chico. » Chico, véritable corps, n'en déplaise à ceux de nos lecteurs qui seraient assez partisans du merveilleux pour croire que nous avons eu l'audace d'introduire une ombre dans cette histoire, et Chico était donc sorti après avoir dit au roi, selon son habitude, sous forme de raillerie, toutes les vérités qu'il avait à lui dire. Voilà ce qui était arrivé. Après la mort des amis du roi, depuis les troubles et les conspirations fomentées par les Guises, Chico avait réfléchi. Brave comme on sait, et insouciant, il faisait cependant le plus grand cas de sa vie qui l'amusait, comme il arrive à tous les hommes d'élite. Il n'y a guère que les sots qui s'ennuient en ce monde et qui vont chercher la distraction dans l'autre. Le résultat de cette distraction que nous avons indiquée fut que la vengeance de monsieur de Mayenne lui parut plus redoutable que la protection du roi n'était efficace. Et il se disait, avec cette philosophie pratique qui le distinguait, qu'en ce monde rien ne défait ce qui est matériellement fait, qu'ainsi toutes les hallebardes et toutes les cours de justice du roi de France ne raccommoderaient pas, si peu visible qu'elle fût, certaines ouvertures que le couteau de monsieur de Mayenne avait faites au pourpoint de Chico. Il avait donc pris parti, en homme fatigué d'ailleurs du rôle de plaisant qu'à chaque minute il brûlait de changer en rôle sérieux, et des familiarités royales qui, par les temps qui couraient, le conduisaient droit à sa perte. Chico avait donc commencé par mettre entre l'épée de monsieur de Mayenne et la peau de Chico la plus grande distance possible. À cet effet, il était parti pour Beaune, dans le triple but de quitter Paris, d'embrasser son ami Gorenflot et de goûter ce fameux vin de 1550 dont il avait été si chaleureusement question dans cette fameuse lettre qui termine notre récit de la dame de Montsoreau. Disons-le, la consolation avait été efficace. Au bout de 2 mois, Chico s'aperçut qu'il engraissait à vue d'œil et que cela servait merveilleusement à le déguiser. Mais il s'aperçut aussi qu'en engraissant, il se rapprochait de Gorenflot plus qu'il n'était convenable à un homme d'esprit. L'esprit l'emporta donc sur la matière. Après que Chico eut bu quelques centaines de bouteilles de ce fameux vin de 1550 et dévoré les 22 volumes dont se composait la bibliothèque du prieuré et dans lesquels le prieur avait lu cet axiome latin « Bonum vinum laetificat cor hominis », Chico se sentit un grand poids à l'estomac et un grand vide au cerveau. « Je me ferais bien moine, pensa-t-il, mais chez Gorenflot je serais trop le maître, et dans une autre abbaye je ne le serais point assez. Certes, le froc me déguiserait à tout jamais aux yeux de monsieur de Mayenne, mais de par tous les diables, il y a d'autres moyens que les moyens vulgaires. Cherchons. J'ai lu dans un autre livre, il est vrai que celui-là n'était point dans la bibliothèque de Gorenflot, « Quaere et inveniens ». Chico chercha donc, et voici ce qu'il trouva. Pour le temps, c'était assez neuf. Il s'ouvrit à Gorenflot et le pria d'écrire au roi sous sa dictée. Gorenflot écrivit difficilement, c'est vrai, mais enfin il écrivit que Chico s'était retiré au prieuré, que le chagrin d'avoir été obligé de se séparer de son maître, lorsque celui-ci s'était réconcilié avec monsieur de Mayenne, avait altéré sa santé, qu'il avait essayé de lutter en se distrayant, mais que la douleur avait été la plus forte et qu'enfin il avait succombé. De son côté, Chico avait écrit lui-même une lettre au roi. Cette lettre, datée de 1580, était divisée en 5 paragraphes. Chacun de ces paragraphes était censé écrit à un jour de distance et selon que la maladie faisait des progrès. Le premier paragraphe était écrit et signé d'une main assez ferme. Le second était tracé d'une main mal assurée, et la signature, quoique lisible encore, était fort tremblée. Il avait écrit « chic » à la fin de la troisième, « ch » à la fin du quatrième. Enfin, il y avait un « c » avec un « pâté » à la fin du cinquième. Ce pâté d'un mourant avait produit sur le roi le plus douloureux effet. C'est ce qui explique pourquoi il avait cru Chico, fantôme et ombre. Nous citerions bien ici la lettre de Chico, mais Chico était, comme on dirait aujourd'hui, un homme fort excentrique, et comme le style est l'homme, son style épistolaire surtout était si excentrique que nous n'osons reproduire ici cette lettre, quelque effet que nous devions en attendre. Mais on la retrouvera dans les Mémoires de l'Étoile, elle est datée de 1580, comme nous l'avons dit, l'année des grands cocuages, ajoute Chico. Au bas de cette lettre, et pour ne pas laisser se refroidir l'intérêt de Henri, Gorenflot ajoutait que depuis la mort de son ami, le prieuré de Beaune lui était devenu odieux et qu'il aimait mieux Paris. C'était surtout ce post-scriptum que Chico avait eu grand-peine à tirer du bout des doigts de Gorenflot. Gorenflot, au contraire, se trouvait merveilleusement à Beaune, et Panurge aussi. Il faisait piteusement observer à Chico que le vin est toujours frelaté quand on n'est point là pour le choisir sur les lieux. Mais Chico promit au digne prieur de venir en personne tous les ans faire sa provision de Romanée, de Volnay et de Chambertin, et comme sur ce point et beaucoup d'autres, Gorenflot reconnaissait la supériorité de Chico, il finit par céder aux sollicitations de son ami. À son tour, en réponse à la lettre de Gorenflot et aux derniers adieux de Chico, le roi avait écrit de sa propre main « Monsieur le prieur, vous donnerez une sainte et poétique sépulture au pauvre Chico, que je regrette de toute mon âme, car c'était non seulement un ami dévoué, mais encore un assez bon gentilhomme, quoiqu'il n'ait jamais pu voir lui-même dans sa généalogie au-delà de son trisaïeul. » Vous l'entourerez de fleurs et ferez en sorte qu'il repose au soleil, qu'il aimait beaucoup étant du midi. Quant à vous, dont j'honore d'autant mieux la tristesse que je la partage, vous quitterez, ainsi que vous m'en témoignez le désir, votre prieuré de Beaune. J'ai trop besoin à Paris d'hommes dévoués et bons clercs pour vous tenir éloigné. En conséquence, je vous nomme prieur des Jacobins. Votre résidence étant fixée près de la porte Saint-Antoine à Paris, quartier que notre pauvre ami affectionnait tout particulièrement. Votre affectionné Henri, qui vous prie de ne pas l'oublier dans vos saintes prières. Qu'on juge si un pareil autographe, sorti tout entier d'une main royale, fit ouvrir de grands yeux au prieur, s'il admira la puissance du génie de Chico et s'il se hâta de prendre son vol vers les honneurs qui l'attendaient. Car l'ambition avait poussé autrefois déjà, on se le rappelle, un de ces tenaces surgeons dans le cœur de Gorenflot, dont le prénom avait toujours été Modeste et qui, depuis déjà qu'il était prieur de Beaune, s'appelait Don Modeste Gorenflot. Tout s'était passé à la fois selon les désirs du roi et de Chico. Un fagot d'épines destiné à remplacer physiquement et allégoriquement le cadavre avait été enterré au soleil, au milieu des fleurs, sous un beau cep de vigne. Puis, une fois mort et enterré en effigie, Chico avait aidé Gorenflot à faire son déménagement. Don Modeste s'était vu installé en grande pompe au prieuré des Jacobins. Chico avait choisi la nuit pour se glisser dans Paris. Il avait acheté, près de la porte Bussy, une petite maison qui lui avait coûté 300 écus. Et quand il voulait aller voir Gorenflot, il avait trois routes, celle de la ville qui était la plus courte, celle du bord de l'eau qui était la plus poétique, et celle enfin qui longeait les murailles de Paris qui était la plus sûre. Mais Chico, qui était un rêveur, choisissait presque toujours celle de la Seine. Et comme en ce temps le fleuve n'était pas encore encaissé dans des murs de pierre, l'eau venait, comme dit le poète, lécher ses larges rives, le long desquelles, plus d'une fois, les habitants de la cité purent voir la longue silhouette de Chico se dessiner par les beaux clairs de lune. Une fois installé et ayant changé de nom, Chico s'occupa à changer de visage. Il s'appelait Robert Briquet, comme nous savons déjà, et marchait légèrement courbé en avant. Et puis l'inquiétude et le retour successif de 5 ou 6 années l'avaient rendu à peu près chauve, si bien que sa chevelure d'autrefois, crépue et noire, s'était, comme la mer au reflux, retirée de son front vers la nuque. En outre, comme nous l'avons dit, il avait travaillé cet art cher aux mimes anciens, qui consiste à changer par de savantes contractions le jeu naturel des muscles et le jeu habituel de la physionomie. Il était résulté de cette étude assidue que, vu au grand jour, Chico était, lorsqu'il voulait s'en donner la peine, un Robert Briquet véritable, c'est-à-dire un homme dont la bouche allait d'une oreille à l'autre, dont le menton touchait le nez et dont les yeux louchaient à faire frémir, le tout sans grimace, mais non sans charme, pour les amateurs de changement, puisque, de fine, longue et anguleuse qu'elle était, sa figure était devenue large, épanouie, obtuse et confite. Il n'y avait que ses longs bras et ses jambes immenses que Chico ne put raccourcir. Mais comme il était fort industrieux, il avait, ainsi que nous l'avons dit, courbé son dos, ce qui lui faisait les bras presque aussi longs que les jambes. Il joignit à ses exercices physionomiques la précaution de ne lier de relations avec personne. En effet, si disloqué que fût Chico, il ne pouvait éternellement garder la même posture. Comment alors paraître bossu à midi, quand on avait été droit à 10 heures, et quel prétexte donner à un ami qui vous voit tout à coup changer de figure parce qu'en vous promenant avec lui, vous rencontrez par hasard un visage suspect? Robert Briquet pratiqua donc la vie de reclus. Elle convenait d'ailleurs à ses goûts et d'achever avec lui ce fameux vin de 1550 que le digne prieur s'était bien gardé de laisser dans les caves de Beaune. Mais les esprits vulgaires sont sujets au changement, comme les grands esprits. Gorenflot changea, non pas physiquement. Il vit en sa puissance et à sa discrétion celui qui, justement, avait tenu ses destinées entre ses mains. Chico, venant dîner au prieuré, lui parut un Chico esclave, et Gorenflot, à partir de ce moment, pensa trop de soi et pas assez de Chico. Et Chico vit, sans s'offenser, le changement de son ami. Ceux qu'il avait éprouvés près du roi Henri l'avaient façonné à cette sorte de philosophie. Il s'observa davantage et ce fut tout. Au lieu d'aller tous les 2 jours au prieuré, il n'y alla plus qu'une fois par semaine, puis tous les 15 jours, puis enfin tous les mois. Gorenflot était si gonflé qu'il ne s'en aperçut pas. Chico était trop philosophe pour être sensible. Il rit sous cap de l'ingratitude de Gorenflot et se gratta le nez et le menton selon son ordinaire. « L'eau et le temps, dit-il, sont les deux plus puissants dissolvants que je connaisse. L'un fend la pierre, l'autre l'amour-propre. Attendons. » Et il attendit. Il était dans cette attente lorsqu'arrivèrent les événements que nous venons de raconter et au milieu desquels il parut surgir quelques-uns de ces éléments nouveaux qui présagent les grandes catastrophes politiques. Or, comme son roi, qu'il aimait toujours, tout trépassé qu'il était, lui parut, au milieu des événements futurs, courir quelques dangers analogues à ceux dont il l'avait déjà préservé, il prit sur lui de lui apparaître à l'état de fantôme, et ce, dans le seul but de lui présager l'avenir. Nous avons vu comment l'annonce de l'arrivée prochaine de monsieur de Mayenne, annonce enveloppée dans le renvoi de Joyeuse, et que Chico, avec son intelligence de singe, avait été chercher au fond de son enveloppe, avait fait passer Chico de l'état de fantôme à la condition de vivant et de la position de prophète à celle d'ambassadeur. Maintenant que tout ce qui pourrait paraître obscur dans notre récit est expliqué, nous reprendrons, si nos lecteurs le veulent bien, Chico à sa sortie du Louvre, et nous le suivrons jusqu'à sa petite maison du carrefour Bussy. Pour aller du Louvre chez lui, Chico n'avait pas longue route à faire. Il descendit sur la berge et commença à traverser la Seine sur un petit bateau qu'il dirigeait seul et que, sur la rive de Nesle, il avait amené et amarré au quai désert du Louvre. « C'est étrange, disait-il en ramant et en regardant les fenêtres du palais, dont une seule, celle de la chambre du roi, demeurait éclairée malgré l'heure avancée de la nuit. C'est étrange, après bien des années, Henri est toujours le même. D'autres ont grandi, d'autres se sont abaissés, d'autres sont morts, lui a gagné quelques rides au visage et au cœur, voilà tout. C'est éternellement le même esprit, faible et distingué, fantasque et poétique. C'est éternellement cette même âme égoïste, demandant toujours plus qu'on ne peut lui donner. L'amitié à l'indifférence, l'amour à l'amitié, le dévouement à l'amour, et malheureux roi, pauvre roi, triste avec tout cela, plus qu'aucun homme de son royaume. Il n'y a en vérité que moi, je crois, qui ai sondé ce singulier mélange de débauche et de repentir, d'impiété et de superstition, comme il n'y a que moi aussi qui connaisse le Louvre, dans les corridors duquel tant de favoris ont passé, allant à la tombe, à l'exil ou à l'oubli, comme il n'y a que moi qui manie sans danger et qui joue avec cette couronne qui brûle la pensée de tant de gens en attendant qu'elle leur brûle les doigts. Et Chico poussa un soupir plus philosophique que triste et appuya vigoureusement sur les avirons. À propos, dit-il tout à coup, le roi ne m'a point parlé d'argent pour le voyage. Cette confiance m'honore en ce qu'elle me prouve que je suis toujours son ami. Et Chico se mit à rire silencieusement, comme c'était son habitude. Et puis, d'un dernier coup d'aviron, il lança son bateau sur le sable fin, où il demeura engravé. Alors, rattachant la proue à un pieu par un nœud dont il avait le secret, et qui, dans ces temps d'innocence, nous parlons par comparaison, était une sûreté suffisante, il se dirigea vers sa demeure, située, comme on sait, à deux portées de mousquet à peine du bord de la rivière. En entrant dans la rue des Augustins, il fut fort frappé et surtout fort surpris d'entendre résonner des instruments et des voix qui remplissaient d'harmonie le quartier, si paisible d'ordinaire à ces heures avancées. On se marie donc par ici, pensa-t-il tout d'abord, ventre de biche, je n'avais que 5 heures à dormir et je vais être forcé de veiller, moi qui ne me marie pas. En approchant, il vit une grande lueur danser sur les vitres des rares maisons qui peuplaient sa rue. Cette lueur était produite par une douzaine de flambeaux que portaient des pages et des valets de pied, tandis que 24 musiciens, sous les ordres d'un Italien énergumène, faisaient rage de leurs violes, psaltérions, sistres, rebecs, violons, trompettes et tambours. Cette armée de tapageurs était placée en bel ordre devant une maison que Chico, non sans surprise, reconnut être la sienne. Le général invisible qui avait dirigé cette manœuvre avait disposé musiciens et pages de manière à ce que tous, le visage tourné vers la demeure de Robert Briquet, l'œil attaché sur les fenêtres, semblassent ne respirer, ne vivre, ne s'animer que pour cette contemplation. Et Chico demeura un instant stupéfait à regarder toute cette évolution et à écouter tout ce tintamarre. Et puis, frappant ses deux cuisses de ses mains osseuses, dit-il, il y a méprise, il est impossible que ce soit pour moi que l'on mène si grand bruit. Alors, s'approchant davantage, il se mêla aux curieux que la sérénade avait attirés, et regardant attentivement autour de lui, il s'assura que toute la lumière des torches se reflétait sur sa maison, comme toute l'harmonie s'y engouffrait. Nul dans cette foule ne s'occupait ni de la maison en face, ni des maisons voisines. En vérité, se dit Chico, c'est bien pour moi. Est-ce que quelque princesse inconnue serait tombée amoureuse de moi par hasard? Cependant, cette supposition, toute flatteuse qu'elle était, ne parut point convaincre Chico. Il se tourna vers la maison qui faisait face à la sienne. Les deux fenêtres de cette maison, placées au second, les seules qui n'eussent point de volets, absorbaient par intervalles des éclairs de lumière, mais c'était tout son plaisir à elle, pauvre maison, qui paraissait privée de toute vue, veuve de tout visage humain. Il faut qu'on dorme durement dans cette maison, dit Chico, ventre de biche, un pareil bacchanal réveillerait les morts. Pendant toutes ces interrogations et toutes ces réponses que Chico se faisait à lui-même, l'orchestre continuait ses symphonies comme s'il eût joué devant une assemblée de rois et d'empereurs. Pardon, mon ami, dit alors Chico, s'adressant à un porte-flambeau, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire pour qui est toute cette musique? Pour le bourgeois qui habite là, répondit le valet en désignant à Chico la maison de Robert Briquet. Pour moi, reprit Chico, décidément, c'est pour moi. Et Chico perça la foule pour lire l'explication de l'énigme sur la manche et sur la poitrine des pages, mais tout blason avait soigneusement disparu sous une espèce de tabard couleur de muraille. Qui êtes-vous, mon ami? Demanda Chicot à un tambourin qui chauffait ses doigts avec son haleine, n'ayant rien à tambouriner à ce moment-là. Au bourgeois qui loge ici, répondit l'instrumentiste, désignant de sa baguette le logis de Robert Briquet. Ah, dit Chicot, non seulement ils sont ici pour moi, mais encore ils sont à moi, de mieux en mieux. Enfin, nous allons bien voir. Et armant son visage de la plus compliquée grimace qu'il put trouver, il coutoya de droite et de gauche, pages, laquais, musiciens, afin de gagner la porte, manœuvre à laquelle il parvint non sans difficulté, et là, visible et resplendissant dans le cercle formé par les portes flambeaux, il tira sa clé de sa poche, ouvrit la porte, entra, repoussa la porte et ferma les verrous. Puis, montant à son balcon, il apporta sur la saillie une chaise de cuir, s'y installa commodément, le menton appuyé sur la rampe, et là, sans paraître remarquer les rires qui accueillaient son apparition, « Messieurs, dit-il, ne vous trompez-vous point, et vos tris, cadences et roulades sont-elles bien à mon adresse ?»« Vous êtes maître Robert Briquet ?» demanda le directeur de tout cet orchestre. « En personne ?» « Eh bien, nous sommes tout à votre service, monsieur, » répliqua l'Italien, avec un mouvement de bâton qui souleva une nouvelle bourrasque de mélodie. « Décidément, c'est inintelligible, » se dit Chicot, en promenant ses yeux actifs sur toute cette foule et sur les maisons du voisinage. Tout ce que les maisons avaient d'habitants était à leurs fenêtres, sur le seuil de leurs maisons, ou mêlés aux groupes qui stationnaient devant la porte. Maître Fournichon, sa femme et toute la suite des 45 femmes, enfants et laquais peuplaient les ouvertures de l'épée du fier chevalier. Seule la maison en face était sombre, muette comme un tombeau. Chicot cherchait toujours des yeux le mot de cette indéchiffrable énigme, quand tout à coup il crut voir, sous l'auvent même de sa maison, à travers les fentes du plancher du balcon, à peu près au-dessous de ses pieds, un homme portant chapeau noir, tout enveloppé d'un manteau de couleur sombre, portant plume rouge et longue épée, lequel, croyant n'être point vu, regardait de toute son âme la maison en face, cette maison déserte, muette et morte. De temps en temps, le chef d'orchestre quittait son poste pour aller parler bas à cet homme. Et Chicot devina bien vite que tout l'intérêt de la scène était là, et que ce chapeau noir cachait une figure de gentilhomme. Dès lors, toute son attention fut pour ce personnage. Le rôle d'observateur lui était facile. Sa position sur la rampe du balcon permettait à sa vue de distinguer dans la rue et sous l'auvent. Il réussit donc à suivre chaque mouvement du mystérieux inconnu, dont la première imprudence ne pouvait manquer de lui dévoiler les traits. Tout à coup, et tandis que Chicot était tout absorbé dans ses observations, un cavalier, suivi de deux écuyers, parut à l'angle de la rue et chassa énergiquement, à coups de houssine, les curieux qui s'obstinaient à faire galerie aux musiciens. « Monsieur de Joyeuse, » murmura Chicot, qui reconnut dans le cavalier le grand amiral de France, botté et éperonné par ordre du roi. Les curieux dispersés, l'orchestre se tut. Probablement un signe du maître lui avait imposé le silence. Le cavalier s'approcha du gentilhomme caché sous l'auvent. « Eh bien, Henri, lui demanda-t-il, quoi de nouveau ?»« Rien, mon frère, rien. »« Rien ? Non, elle n'a même pas paru. »« Ces drôles n'ont donc point fait de vacarme. Ils ont assourdi tout le quartier. »« Et ils n'ont donc pas crié, comme on le leur avait demandé, qu'ils jouaient en l'honneur de ce bourgeois ?» « Ils l'ont si bien crié qu'il est là en personne sur son balcon, écoutant la sérénade. »« Et elle n'a point paru. Ni elle, ni personne. Ah, »« L'idée était ingénieuse, cependant, » dit Joyeuse piquée, « car enfin elle pouvait, sans se compromettre, faire comme tous ces braves gens, et profiter de la musique donnée à son voisin. » Henri secoua la tête. « Ah, on voit bien que vous ne la connaissez point, mon frère, » dit-il. Si fait, je la connais, c'est-à-dire que je connais toutes les femmes, et comme elle est comprise dans le nombre, eh bien, ne nous décourageons pas. Oh, mon Dieu, mon frère, vous me dites cela d'un ton découragé. Pas le moins du monde. Seulement, à partir d'aujourd'hui, il faut que chaque soir, le bourgeois ait sa sérénade. Mais elle va déménager. Mais pourquoi, si tu ne dis rien, si tu ne la désignes pas, si tu restes toujours caché? Le bourgeois a-t-il parlé quand on lui a fait cette galanterie? Il a harangué l'orchestre, et tenez, mon frère, le voilà qui va parler encore. En effet, Briquet, décidé à tirer la chose au clair, se levait pour interroger une seconde fois le chef de l'orchestre. Taisez-vous là-haut et rentrez, cria Anne de mauvaise humeur. Que diable, puisque vous avez eu votre sérénade, vous n'avez rien à dire. Tenez-vous donc en repos. Ma sérénade, répondit Chicot de l'air le plus gracieux, mais je veux savoir au moins à qui elle est adressée, ma sérénade. À votre fille, imbécile. Pardon, monsieur, mais je n'ai pas de fille. À votre femme, alors. Grâce à Dieu, je ne suis pas marié. Alors à vous en personne. Oui, à toi, et si tu ne rentres pas. Joyeuse, joignant l'effet à la menace, poussa son cheval vers le balcon de Chicot, et cela tout au travers des instrumentistes. Ventre de biche, cria Chicot, si la musique est pour moi, qui donc vient ici m'écraser ma musique? Vieux fou, grommela Joyeuse en levant la tête, si tu ne caches pas ta laide figure dans ton nid de corbeau, les musiciens vont te casser leurs instruments sur la nuque. Oh, laissez ce pauvre homme, mon frère, dit du bouchage. Le fait est qu'il doit être fort étonné. Pourquoi s'étonne-t-il, morbleu? D'ailleurs, tu vois bien qu'en faisant naître une querelle, nous attirerons quelqu'un à la fenêtre. Donc, rossons le bourgeois, brûlons sa maison s'il le faut, mais, corbleu, remuons-nous, remuons-nous. Par pitié, mon frère, dit Henri, n'extorquons pas l'attention de cette femme. Nous sommes vaincus, résignons-nous. Briquet n'avait pas perdu un mot de ce dernier dialogue qui avait introduit un grand jour dans ses idées encore confuses. Il faisait donc mentalement ses préparatifs de défense, connaissant l'humeur de celui qu'il attaquait. Mais Joyeuse, se rendant au raisonnement de Henri, n'insista point davantage. Il congédia page, valet, musicien et maestro. Et puis, tirant son frère à part, « Tu me vois au désespoir, dit-il, tout conspire contre nous. Que veux-tu dire? Mais le temps me manque pour t'aider. En effet, tu es en costume de voyage, je n'avais point encore remarqué cela. Je pars cette nuit pour Anvers avec une mission du roi. Quand te l'a-t-il donc donnée? Ce soir. Oh mon Dieu! Oh, viens avec moi, je t'en supplie. Henri laissa tomber ses bras. Me l'ordonnez-vous, mon frère? Demanda-t-il, pâlissant à l'idée de ce départ. Anne fit un mouvement. Si vous l'ordonnez, continua Henri, j'obéirai. Je te prie, dit Bouchage, rien d'autre chose. Merci, mon frère. Joyeuse haussa les épaules. Tant que vous voudrez, Joyeuse, mais voyez-vous, s'il me fallait renoncer à passer les nuits dans cette rue, s'il me fallait cesser de regarder cette fenêtre, eh bien, je mourrais, pauvre fou. Mon cœur est là, voyez-vous, mon frère, dit Henri en étendant la main vers la maison. Ma vie est là. Ne me demandez pas de vivre si vous m'arrachez le cœur de la poitrine. Le duc croisa ses bras avec une colère mêlée de pitié, mordit sa fine moustache et, après avoir réfléchi pendant quelques minutes de silence, si votre père vous priait, Henri, dit-il, de vous laisser soigner par Miron, qui est un philosophe en même temps qu'un médecin, je répondrai à notre père que je ne suis point malade, que ma tête est saine et que Miron ne guérit pas du mal d'amour. Il faut donc adopter votre façon de voir, Henri. Mais pourquoi irais-je m'inquiéter? Cette femme est femme, vous êtes persévérant, rien n'est donc désespéré, et à mon retour, je vous verrai plus allègre, plus jovial et plus chantant que moi. Oui, mon bon frère, reprit le jeune homme en serrant les mains de son ami. Oui, je guérirai, oui, je serai heureux, oui, je serai allègre. Merci de votre amitié, merci, c'est mon bien le plus précieux. Après votre amour, avant ma vie. Joyeuse, profondément touchée malgré sa frivolité apparente, interrompit brusquement son frère. Partons-nous, dit-il, voici que les flambeaux sont éteints, les instruments au dos des musiciens, les pages sont en route. Allez, allez, mon frère, je vous suis, dit du bouchage en soupirant de quitter la rue. Je vous entends, dit Joyeuse, le dernier adieu à la fenêtre, c'est juste. Alors adieu aussi pour moi, Henri. Henri passa ses bras au cou de son frère qui se penchait pour l'embrasser. Non, dit-il, je vous accompagnerai jusqu'aux portes. Attendez-moi seulement à 100 pas d'ici. En croyant la rue solitaire, peut-être se montrera-t-elle. Anne poussa son cheval vers l'escorte arrêtée à 100 pas. Allons, allons, dit-il, nous n'avons plus besoin de vous jusqu'à nouvel ordre. Partez. Les flambeaux disparurent, les conversations des musiciens et les rires des pages s'éteignirent, comme aussi les derniers gémissements arrachés aux cordes des violes et des luttes par le frôlement d'une main égarée. Henri donna un dernier regard à la maison, envoya une dernière prière aux fenêtres et rejoignit lentement, en se retournant sans cesse, son frère que précédaient les deux écuyers. Robert Briquet, voyant les deux jeunes gens partir avec les musiciens, jugea que le dénouement de cette scène, si toutefois cette scène devait avoir un dénouement, allait avoir lieu. En conséquence, il se retira bruyamment du balcon et ferma la fenêtre. Quelques curieux obstinés demeurèrent encore fermes à leur poste, mais au bout de 10 minutes, le plus persévérant avait disparu. Pendant ce temps, Robert Briquet avait gagné le toit de sa maison, dentelé comme celui des maisons flamandes, et se cachant derrière une de ses dentelures, il observait les fenêtres d'en face. Sitôt que le bruit eut cessé dans la rue, qu'on n'entendit plus ni instrument, ni pas, ni voix, sitôt que tout enfin fut entré dans l'ordre accoutumé, une des fenêtres supérieures de cette maison étrange s'ouvrit mystérieusement, et une tête prudente s'avança au dehors. Plus rien, murmura une voix d'homme, par conséquent plus de danger. C'était quelque mystification à l'adresse de notre voisin. Vous pouvez quitter votre cachette, madame, et redescendre chez vous. À ces mots, l'homme referma la fenêtre, fit jaillir le feu d'une pierre et alluma une lampe qu'il tendit vers un bras allongé pour la recevoir. Chicot regardait de toutes les forces de sa prunelle, mais il n'eut pas plutôt aperçu la pâle et sublime figure de la femme qui recevait cette lampe, il n'eut pas plutôt saisi le regard doux et triste qui fut échangé entre le serviteur et sa maîtresse, qu'il pâlit lui-même et sentit comme un frisson glacé courant dans ses veines. La jeune femme, à peine avait-elle 24 ans, la jeune femme alors descendit l'escalier, son serviteur la suivit. « Ah !» murmura Chicot, passant la main sur son front pour en essuyer la sueur, et comme si en même temps il eût voulu chasser une vision horrible. « Ah ! Comte du Bouchage, brave, beau jeune homme, amoureux, insensé, qui parle maintenant de devenir joyeux, chantant et allègre, passe ta devise à ton frère, car jamais plus tu ne diras « hilaritaire ». Puis il descendit à son tour dans sa chambre, le front assombri, comme s'il fût descendu dans quelque passe terrible, dans quelque abîme sanglant, et s'assit dans l'ombre, subjugué, lui le dernier, mais le plus complètement peut-être, par l'incroyable influence de mélancolie qui rayonnait du centre de cette maison. Chicot passa toute la nuit à rêver sur son fauteuil. Réveille le mot, car en vérité ce furent moins des pensées qui l'occupèrent que des rêves. Revenir au passé, voir s'éclairer au feu d'un seul regard toute une époque presque effacée déjà de la mémoire, ce n'est pas penser. Chicot habita toute la nuit un monde déjà laissé par lui bien en arrière et peuplé d'ombres illustres ou gracieuses, que le regard de la femme pâle, semblable à une lampe fidèle, lui montrait, défilant une à une devant lui, avec son cortège de souvenirs heureux et terribles. Chicot, qui regrettait tant son sommeil en revenant du Louvre, ne songea même pas à se coucher. Aussi, quand l'aube vint arpenter les vitraux de sa fenêtre, « Alors des fantômes passés, dit-il, il s'agit de songer un peu aux vivants. » Il se leva, ceignit sa longue épée, jeta sur ses épaules un surtout de laine de couleur lie de vin, d'un tissu imperméable aux plus fortes pluies, et avec la stoïque fermeté du sage, il examina d'un coup d'œil le fond de sa bourse et la semelle de ses souliers. Ceux-ci parurent à Chicot dignes de commencer une campagne. Celle-là méritait une attention particulière. Nous ferons donc une halte à notre récit pour prendre le temps de la décrire à nos lecteurs. Chico, homme d'ingénieuse imagination, comme chacun sait, avait creusé la maîtresse poutre qui traversait sa maison de bout en bout, concourant ainsi à la fois à l'ornement, car elle était peinte de diverses couleurs, et à la solidité, car elle avait 18 pouces au moins de diamètre. Dans cette poutre, au moyen d'une concavité d'un pied et demi de long sur 6 pouces de large, il s'était fait un coffre-fort dont les flancs contenaient 1000 écus d'or. Or, voici le calcul que s'était fait Chico. « Je dépense par jour, avait-il dit, la 20e partie d'un de ces écus. J'ai donc là de quoi vivre 20 000 jours. Je ne les vivrai jamais, mais je puis aller à moitié, et puis à mesure que je vieillirai, mes besoins et par conséquent mes dépenses s'augmenteront, car encore faut-il que le bien-être progresse en proportion de la diminution de la vie. Tout cela me fait 25 ou 30 bonnes années à vivre. Allons, c'est, Dieu merci, assez bien. » Chico se trouvait donc, grâce au calcul que nous venons de faire après lui, un des plus riches rentiers de la ville de Paris. Cette tranquillité sur son avenir lui donnait un certain orgueil. Non pas que Chico fût avare, longtemps même il avait été prodigue, mais la misère lui faisait horreur, car il savait qu'elle tombe comme un manteau de plomb sur les épaules et qu'elle courbe les plus forts. Ce matin donc, en ouvrant sa caisse pour faire ses comptes vis-à-vis de lui-même, il se dit « Un ventre de biche, le siècle est dur et les temps ne sont point à la générosité. Je n'ai pas de délicatesse à faire avec Henri, moi. Ces 1000 écus ne viennent pas même de lui, mais d'un oncle qui m'en avait promis 6 fois davantage. Il est vrai que cet oncle était garçon. » S'il faisait nuit noire, j'irais prendre 100 écus dans la poche du roi, mais il est jour, et je n'ai plus de ressources qu'en moi-même, et en Goranflot. Cette idée de tirer de l'argent de Goranflot fit sourire son digne ami. Il ferait beau voir, continua-t-il, que maître Goranflot, qui me doit sa fortune, refusa 100 écus à son ami pour le service du roi qu'il a nommé prieur des Jacobins. « Ah, continua-t-il en hochant la tête, ce n'est plus Goranflot. Oui, mais Robert Briquet est toujours Chico. Mais cette lettre du roi, cette fameuse épître destinée à incendier la cour de Navarre, je devais l'aller chercher avant le jour, et voilà que le jour est venu. Bah, cet expédient, je l'aurai, et même il frappera un coup terrible sur le crâne de Goranflot, si sa cervelle me paraît trop dure à persuader. En route donc !» Chico rajusta la planche qui fermait sa cachette, l'assura avec 4 clous, la recouvrit de la dalle, sur laquelle il sema la poussière convenable à boucher les jointures. Puis, prêt au départ, il regarda une dernière fois cette petite chambre où, depuis bien des heureux jours, il était impénétrable et gardé comme le cœur dans la poitrine. Puis il donna un coup d'œil à la maison d'en face. « Au fait, se dit-il, ces diables de joyeuses pourraient bien, une belle nuit, mettre le feu à mon hôtel pour attirer un instant à sa fenêtre la dame invisible. Eh, mais s'ils brûlaient ma maison et qu'en même temps ils feraient un lingot de mes 1000 écus, ah, en vérité, je crois que je ferais prudemment d'enfouir cette somme. » « Allons donc, eh bien, si messieurs de joyeuses brûlent ma maison, le roi me la paiera. » Ainsi rassuré, Chico ferma sa porte, dont il emporta la clé, puis, comme il sortait pour gagner le bord de la rivière, « Eh, dit-il, ce Nicolas Poulain pourrait fort bien venir ici, trouver mon absence suspecte et... Ah, ça, mais ce matin, je n'ai que des idées de lièvre. En route, en route !» Comme Chico fermait la porte de la rue, avec non moins de soin qu'il avait fermé la porte de sa chambre, il aperçut à sa fenêtre le serviteur de la dame inconnue, qui prenait l'air, espérant sans doute, vu le bon matin, n'être point aperçu. Cet homme, comme nous l'avons déjà dit, était complètement défiguré par une blessure reçue à la tempe gauche et qui s'étendait sur une partie de la joue. L'un de ses sourcils, en outre, déplacé par la violence du coup, cachait presque entièrement l'œil gauche, renfoncé dans son orbite. Chose étrange, avec ce front chauve et sa barbe grisonnante, il avait le regard vif et comme une fraîcheur de jeunesse sur la joue qui lui avait été épargnée. À l'aspect de Robert Briquet qui descendait le seuil de sa porte, il se couvrit la tête de son capuchon. Il fit un mouvement pour rentrer, mais Chico lui fit un signe pour qu'il demeurât. « Voisin, lui cria Chico, le tintamarre d'hier m'a dégoûté de ma maison. Je vais aller quelque temps à ma métairie. Seriez-vous assez obligeant pour donner de temps en temps un coup d'œil de ce côté ?»« Oui, monsieur, répondit l'inconnu, bien volontiers. Et si vous aperceviez des larrons, j'ai une bonne arquebuse, monsieur, soyez tranquille. Merci. Toutefois, j'aurai encore un service à vous demander, mon voisin. Parlez, je vous écoute. » Chico sembla mesurer de l'œil la distance qui le séparait de son interlocuteur. C'est bien délicat à vous de crier de si loin, cher voisin, dit-il. Je vais descendre alors, répondit l'inconnu. En effet, Chico le vit disparaître, et comme pendant cette disparition il s'était rapproché de la maison, il entendit son pas s'approcher, et puis la porte s'ouvrit, et ils se trouvèrent face à face. Cette fois, le serviteur avait complètement enveloppé son visage dans son capuchon. « Il fait bien froid ce matin, dit-il, pour dissimuler ou excuser cette mystérieuse précaution. « Une bise glaciale, mon voisin, répliqua Chico, affectant de ne pas regarder son interlocuteur pour le mettre plus à l'aise. « Je vous écoute, monsieur. Voici, reprit Chico, je pars. Vous m'avez déjà fait l'honneur de me le dire. Je m'en souviens parfaitement, mais en partant je laisse de l'argent chez moi. Tant pis, monsieur, tant pis, emportez-le. Non pas, l'homme est plus lourd et moins résolu quand il cherche à sauver sa bourse en même temps que sa vie. Je laisse donc ici de l'argent, bien caché toutefois, si bien caché même que je n'ai à redouter qu'une mauvaise chance d'incendie. Si cela m'arrivait, veuillez, vous qui êtes mon voisin, surveiller la combustion de certaines grosses poutres dont vous voyez là à droite le bout sculpté en forme de gargouille. Surveillez, dis-je, cherchez dans les cendres. « En vérité, monsieur, dit l'inconnu, avec un mécontentement visible, vous me gênez fort. Cette confidence serait mieux faite à un ami qu'à un homme que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez connaître. » Tout en disant ces mots, son œil brillant interrogeait la grimace doucereuse de Chico. « C'est vrai, répondit celui-ci, je ne vous connais pas, mais je suis très confiant aux physionomies et je trouve que votre physionomie est celle d'un honnête homme. » « Voyez cependant, monsieur, de quelle responsabilité vous me chargez. Ne se peut-il pas aussi que toute cette musique ennuie ma maîtresse comme elle vous a ennuyé vous-même et qu'alors nous déménagions ?»« Eh bien, répondit Chico, alors tout est dit et ce n'est point à vous que je m'en prendrai, voisin. Merci de la confiance que vous me témoignez, moi, pauvre inconnu, dit le serviteur en s'inclinant, je tâcherai de m'en montrer digne. » Et saluant Chico, il se retira chez lui. Chico, de son côté, le salua affectueusement. Puis, voyant la porte refermée sur lui, « Pauvre jeune homme, murmura-t-il, voilà pour cette fois un vrai fantôme, et cependant je l'ai vu si gai, si vivant, si beau. »